et sans cesse. Émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Prier sans cesse. Est-ce possible ? Comment et pourquoi prier sans cesse ? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22.
Petite histoire écrite par John Graz. En rentrant de voyage, il m'arrive souvent de passer par JFK Airport à New York. Au retour d'un long voyage de 10 jours ou plus, on est impatient de rentrer chez soi. Arrivé à New York, je me sentais déjà à la maison. Mais c'est souvent la dernière heure qui semble la plus longue. On est à la fois si près et si loin. Ce jour-là, je passe le contrôle de l'immigration, réponds aux questions habituelles des policiers. Depuis combien de temps avez-vous quitté les USA ? Où allez-vous ? Pourquoi faire ? Je tends mon passeport et ma carte verte. Le policier vérifie et tamponne et me rend le document. Je cours pour prendre l'avion de Washington. Arrivé à la porte d'embarquement, je constate avec stupeur que ma carte verte n'est pas dans mon passeport. Paniqué, j'informe l'hôtesse. Elle me dit qu'elle va téléphoner au contrôle de l'immigration. La carte est peut-être tombée après mon passage. Désolé, fatigué, je rentre dans l'avion et m'installe. Aux USA, la carte verte est le document le plus précieux pour un étranger. Je pense aux complications qui m'attendent et je me mets à prier. La porte de l'avion est fermée, l'avion recule et moi je prie. À ce moment-là, je réalise combien je suis stupide. Il y a sans doute des milliards de croyants qui, au même moment, prient pour des sujets beaucoup plus importants. La guerre, les persécutions, la maladie, l'injustice, la faim. Et moi, je prie pour que par miracle, ma carte verte puisse être retrouvée. Et non seulement retrouvée, mais rapportée dans l'avion qui s'en va. Pendant que je pense à tout cela, l'avion s'éloigne de la porte. Je perds ma carte. Par ma faute, et je demande à Dieu d'arrêter l'avion. Ridicule. Comme si Dieu, loin dans l'univers, tout à coup se disait « Alerte ! Quelque chose se passe à New York. John Graz a perdu sa carte verte. Vite, envoyons un ange pour la retrouver et arrêtons l'avion pour la lui rendre. » Alors, je me demandais si ma prière n'était pas en fait un sacrilège. Je note que l'avion s'est arrêté. Je regarde par le hublot. Je vois une voiture découverte s'approcher du cockpit. L'un des hommes tend une perche avec un petit panier au bout. Bizarre. J'entends le commandant de bord rire. Quelques secondes plus tard, l'hôtesse avance dans l'allée et dit « Docteur Graz ?» Je lève la main. Elle ajoute « Avez-vous perdu votre carte verte ?» Avec la plus grande surprise, je réponds. « Oui ? La voilà !» me dit-elle en me l'attendant. J'étais à la fois heureux, surpris, troublé, confus. Dieu avait-il répondu à ma prière ? Écoutons maintenant le message de John Graz.
Lorsque Paul écrit ces mots, « Priez sans cesse », il est en train de conclure sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique. C'est une lettre importante. L'apôtre encourage et félicite la jeune communauté qu'il a fondée au cours de son second voyage missionnaire en l'an 50. C'est John Graz qui vous parle et je suis très heureux une fois de plus de vous retrouver. Revenons à Thessalonique. Thessalonique est la première métropole d'Europe dans laquelle Paul a prêché la bonne nouvelle. Elle est la capitale de la province romaine de Macédoine. C'est une ville prospère, située sur le passage de la célèbre Via Egnatia, l'autoroute de l'époque qui reliait la mer Égée à la mer Adriatique. Paul est à Corinthe lorsqu'il reçoit de bonnes nouvelles de Thessalonique par Timothée. Il est content. Nous sommes en l'an 51. Il y a une vingtaine d'années seulement que Jésus est mort. Et cette lettre est le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Elle est le premier document chrétien. Alors dans cette lettre, Paul n'y discute pas de problèmes théologiques, non, il encourage plutôt la jeune Église et il va partager avec elle la bonne nouvelle du retour imminent et glorieux de Jésus-Christ. La question qu'on se pose alors est « Que deviendront ceux qui sont déjà morts ? Vont-ils manquer ce grand rendez-vous, cet événement extraordinaire ?» C'est la question que l'on veut adresser à Paul. Alors, la réponse est la suivante. « Ne vous inquiétez pas, écrit Paul, car ceux qui sont morts avant aussi ressusciteront. Ils se réveilleront du sommeil de la mort, mais vous qui êtes vivants, réjouissez-vous et surtout soyez prêts. » Et c'est dans ce contexte qu'il écrit « Priez sans cesse ». Ce « Priez sans cesse » fait partie d'une trilogie qui commence par « Soyez toujours joyeux » et qui se conclut avec ces mots « Rendez grâce en toutes choses ». Et aujourd'hui, près de 2000 années plus tard, comment recevoir et comment comprendre ce « Priez sans cesse » ? Les premiers chrétiens croyaient au proche retour du Christ, c'est clair, et si le plus grand événement de leur existence est à la porte, alors prier sans cesse est un moyen de garder la foi et aussi d'être sauvé. Que veut dire prier sans cesse? En entendant ces mots, une série d'images défile devant mes yeux. Oui, je vois des croyants à genoux, bien sûr. Je vois des croyants qui marchent autour d'un symbole religieux, d'une statue, qui répètent des formules ou qui restent assis, la tête inclinée, pendant des heures. Et d'une manière plus personnelle, prier sans cesse me rappelle ma grand-mère assise, égrenant son chapelet, avant de poursuivre le travail de la maison. Les « Je vous salue Marie » et les « Notre Père » se succédaient. Au cours d'une rencontre avec le patriarche écuménique de Constantinople à Istanbul, l'un de ses conseillers m'a offert un chapelet. Quand je le regarde, cela me rappelle qu'il faut prier sans cesse. J'ai parfois observé au cours de réunions des amis musulmans sortir de leur poche un objet similaire au chapelet et commencer à l'égrener. Dans toutes les religions, on retrouve ce besoin de prier sans cesse. Mais quand Paul nous recommande de prier sans cesse, il fait référence à une manière de vivre plus qu'à des formules ou à des gestes. Ellen White définit la prière comme la respiration de l'âme. C'est une belle image, en effet. Notre être spirituel a besoin de respiration comme notre corps. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « respirer sans cesse ». Et on ne dit pas ça, « respirer sans cesse ». Le docteur lui-même ne m'a jamais dit « et surtout, n'oubliez pas de respirer ». Il n'a jamais écrit sur l'ordonnance « aidez-le à respirer ». Il ne faut pas qu'il oublie de respirer. Pourquoi ? Parce que nous respirons sans nous poser de questions. Nous inspirons et nous expirons naturellement 20 000 fois par jour sans y penser. Pourtant, respirer est vital. Inspirer permet à l'oxygène de l'air de pénétrer dans nos poumons, puis dans notre système sanguin et nos cellules. Et expirer permet aux capillaires pulmonaires d'expulser l'air vicié. Il peut arriver, après un accident ou une maladie, que nous devions réapprendre à respirer. J'ai vu des malades équipés d'un appareil respiratoire pendant la nuit, car ils risquaient, en dormant, de ne plus inspirer. Vous voyez, la respiration est vitale. Elle est vitale pour notre vie physique, alors comme la prière est vitale pour notre vie spirituelle. Mais, et bien sûr, il y a une différence. En temps normal, la respiration ne demande pas un acte volontaire, on fait ça naturellement. Par contre, la prière, même si elle fait partie de notre vie, demande toujours un acte volontaire. Je peux m'arrêter de prier quand je veux. Quoi qu'on en dise, la prière n'est pas une drogue. Il est très facile d'oublier de prier. On peut même en arriver au point où il faut faire un énorme effort pour s'y remettre.
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Cela me fait penser à l'histoire de ces soldats qui étaient regroupés dans une tranchée. Les ennemis allaient fondre sur eux d'un instant à l'autre. Et cette fois, dit le sergent, nous allons tous y passer. Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de prier. Alors tous sont d'accord, la question c'est qui va prier? Il n'y a pas de réponse. Et au bout d'un moment, quelqu'un dit, c'est Robert qui va prier. Mais Robert réagit et il dit, pas moi. Moi, je ne sais pas prier. Mais l'autre dit, mais tu allais à l'église, tu m'as dit que tu allais à l'église. Alors Robert dit, oui, bien sûr, j'allais à l'église, mais à l'église, je ne priais pas. Mais alors qu'est-ce que tu faisais si tu ne priais pas quand tu allais à l'église? Et Robert répond, à l'église, c'est moi qui faisais la collecte. Paul va revenir plusieurs fois sur la nécessité de prier. Entretenez-vous par des psaumes, écrit-il, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Et il poursuit, « Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père. » Et oui, la prière peut prendre différentes formes. Elle se nourrit par la lecture de la Bible, par le chant des cantiques. Et dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul écrit, « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. » Jésus lui-même, parlant de son prochain retour, insiste sur la prière continuelle. Il dit, « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » En tout temps. En tout temps est synonyme de « continuellement » qui est également synonyme de sans cesse. En lisant les évangiles, on a le sentiment que Jésus priait sans cesse. Quand la foule devient trop pressante et quand elle risque de le distraire de sa mission, il s'éloigne pour prier. Au début de son ministère, pour mieux se préparer, il s'en va dans le désert pour prier. Avant la croix, il se retire et prie. Il prie pour ses disciples, pour les malades et même pour ses ennemis. Et les apôtres suivent bien sûr son exemple. Il prie et les sujets ne manquent pas. Paul prie dans la prison à Philippe. Il prie sur le bateau. Il prie dans les moments de joie, dans les moments de peine. Il prie pour les autres, pour leur conversion, pour leur guérison. Priez sans cesse. Priez, voyez-vous, c'est avant tout parler à Dieu, communiquer avec lui comme on communique avec ses parents, ses enfants, ses amis. Quand on dit, par exemple, « Je suis en communication ou en contact permanent avec mes enfants ou mon conjoint ou mes parents », cela ne veut pas dire que nous sommes au téléphone 24 heures sur 24. Cela veut dire que rien ne nous sépare. Ils sont dans nos pensées. Et la communication est continuelle, comme si le téléphone était constamment branché. Prier sans cesse, c'est différent de prier à l'occasion. C'est bien d'avoir des réunions de prière, des semaines de prière, cela nous aide. Ça nous aide à conforter notre spiritualité, ça nous encourage aussi à maintenir notre relation avec Dieu. Par exemple, en 1999 ou 99, je participais à la cérémonie du troisième millénaire à Bethléem avec les dirigeants des communions chrétiennes mondiales. Nous étions invités et Yasser Arafat était présent. Le programme allait bon train, les patriarches se succédaient à la tribune, jusqu'au moment où, du minaret, le son d'une voix puissante s'imposa. Le patriarche latin de Jérusalem dut interrompre son discours. Pourquoi ? Parce que c'était l'heure de l'appel à la prière. Et même les grands de ce monde doivent s'y soumettre. J'ai toujours été impressionné par l'appel à la prière quand je visitais les pays musulmans. Pour moi, le message était clair. Arrêtez vos occupations, vos bavardages, vos affaires et maintenant priez, car au-dessus de vous, il y a Dieu. On peut bien sûr être d'accord ou ne pas être d'accord avec la forme et le ton, mais l'appel à la prière m'invite à parler à Dieu. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, en fin d'après-midi, les cloches de l'église de mon village sonnaient l'Angélus. Dans le passé, ceux qui étaient dans les champs arrêtaient à ce moment leurs activités, ils inclinaient la tête, ils joignaient les mains et ils priaient. Ils priaient comme leurs parents, ils priaient comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des siècles. Dans les campagnes, la journée était rythmée par les cloches de l'église. Et chaque fois qu'elles sonnaient, cela signifiait « N'oubliez pas Dieu, n'oubliez pas de le prier ». Quand je raconte cela à mes petits-enfants, ils me regardent, étonnés, et je crois lire leurs pensées. « Papy, dans quel siècle as-tu vécu ?» Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la prière est un peu comme les locomotives à vapeur, une relique d'un passé déjà ancien. On la retrouve dans les séries télévisées comme « La petite maison dans la prairie », dans certains westerns pour nous rappeler comment les familles vivaient à la fin du XIXe siècle. Mais de nos jours, c'est différent. Le monde a changer. Pourtant, rien n'est plus beau qu'une petite fille ou un petit garçon priant avec ses propres mots pour son papa et sa maman. Paul, lui, va encore plus loin. Le prier sans cesse est une prière constante, incessante. Dans la mesure où notre relation avec Dieu est continuelle, nous sommes préparés à des moments de prière particulier, la prière spéciale pour un malade, par exemple, pour le travail, pour la famille. Revenons à l'image maintenant de la respiration. Nous respirons sans cesse, mais il y a des moments où nous respirons plus fort, par exemple quand nous courons. C'est toujours la même respiration, mais le rythme change. Le prier sans cesse facilite le prier avec persévérance, le prier pour un cas particulier, le prier au cours d'un moment tout à fait spécial. Mais comment prier sans cesse? En parlant à Dieu, comme à son plus proche confident, et cela commence dès les premières heures de la journée, on recommande nos proches au Seigneur, on lui parle de nos activités, de nos programmes, de nos défis, on le remercie pour les bonnes choses. Il y a tant et tant de choses à lui dire. Par exemple, vous êtes dans le métro. Priez pour ceux qui vous entourent. Vous ne les connaissez pas, mais Dieu, lui, les connaît. Vous passez devant un hôpital. Priez pour les malades. Vous rencontrez quelqu'un de mauvaise humeur. Il ou elle a sans doute un problème. Voilà un bon sujet de prière. Comme vous parlez avec Dieu constamment, vous partagez avec lui vos moindres soucis, vos joies les plus simples. Et cela commence le matin, avant même de vous lever. À peine réveillé, vous remerciez Dieu pour la vie qu'il vous donne, pour la nuit de repos, pour la famille, pour la journée qui vient. Vous pensez aux activités qui vous attendent, aux gens que vous allez rencontrer, et vous priez pour eux. Bien sûr, on peut se dire que Dieu n'a pas besoin d'être informé. Il connaît tout, alors pourquoi perdre notre temps et lui faire perdre le sien alors qu'il sait déjà ce pourquoi on va prier. Et ça me fait penser à mes petits-enfants quand ils jouent. Et quand ils jouent, ils disent « Papy, regarde !» Et si je tourne les yeux, ils s'arrêtent et ils crient « Papy, regarde, regarde !» Alors moi, je leur dis « Écoutez, mais je vous regarde !» Mais ce n'est pas parce que je tourne la tête que je ne les regarde plus. Ils sont devant moi. Mais pour eux, il est important de voir que je les regarde. Pour nous, il est important de parler à Dieu, même s'il sait d'avance ce que nous voulons lui dire. Parler rend la relation plus forte. Nous ne prions pas pour informer Dieu, mais pour lui parler. Et ne pensons pas qu'il faut seulement parler à Dieu lorsque nous avons des choses importantes à lui dire. La question n'est pas au niveau de l'importance, mais de la relation, de la communication. Prier sans cesse, c'est rester en communication avec le ciel. Il n'y a pas pour Dieu de petits sujets insignifiants. Tout est important dès l'instant où on lui parle. Prier pour une place de parking, pour ne pas rater son train, pour réussir son examen, pour rencontrer son futur conjoint, pour se faire des amis. C'est important pour nous, c'est important pour Dieu.
Pour être pratique.
Et maintenant, les trois points pour être pratique. Alors, le premier point, prier sans cesse et laisser Dieu décider dans sa sagesse suprême s'il doit intervenir ou non. Vous ne comptez plus les moments de prière. En fait, vous réalisez qu'ils font partie de votre vie comme la respiration fait partie de votre corps. Deuxième point, prier sans cesse pour garder la communication vivante, pour être plus fort devant les problèmes, les défis, pour garder confiance et continuer votre marche vers l'éternité. Et troisième point, prier sans cesse pour que le jour où vous verrez Dieu et votre Seigneur soit vraiment le plus beau jour de votre vie.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».